Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Il faut qu'on s'améliore et qu'on puisse essayer de planter le clou.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after sur RMC, en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, Roland Courbis, salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Tu l'aimes bien le jingle de l'after, hein?
Ah ouais, ouais. J'ai envie d'aller chercher un ours.
Écoute, en face de toi, non, rien à voir avec un ours. C'est Kevin Diaz qui est là, salut Kevin.
Salut à tous, là c'est plus une gazelle.
Ouais, quoi que c'est, avec cette petite barbe de 3 jours, pourquoi pas. Tout va bien les gars, en pleine forme?
Ben oui, ça va, impeccable.
Au programme ce soir, l'équipe de France, après la victoire 2-0 contre l'Autriche hier soir. Mais oui Roland, Roland et Kevin d'ailleurs, tous les deux, vous avez des avis tranchés sur les Bleus. Coach, l'équipe d'hier, l'équipe bis, t'as plu? Peut-être un peu plus que les A de l'Euro 2021, c'est ça?
Complètement, et d'ailleurs je peux t'expliquer en détail pourquoi.
Eh bien tu nous expliqueras en détail pourquoi d'ici une petite demi-heure. Kevin, t'as un avis sur Mbappé, selon toi il lui faut un numéro 9 pour qu'il soit au top. Tu expliqueras ton avis dans quelques secondes. Supporters d'équipe de France, on vous attend au 32-16. N'hésitez pas à appeler nous et venez débattre avec Roland et Kevin. À 23h, Nice, avec l'info du jour, Lucien Favre va finalement rester. Il est maintenu pour le moment. On parlait de Pochettino à sa place, mais finalement, ça va rester Favre pour quelques matchs au moins. Supporters niçois, Favre maintenu. Est-ce une bonne nouvelle là aussi? On vous attend au 32-16. À 23h30, des nouvelles des supporters français partis en vélo pour le Qatar. On les avait eus au moment de leur départ. Ils sont partis avec leur billet en poche, une tente et quelques chambres à air de rechange. Direction le Qatar, 6000 km de distance. Ils sont à peu près à mi-distance, un peu plus de la moitié. Et ils sont en Turquie. Donc on leur passera un coup de fil vers 23h30. Et puis avant minuit, les drôles de dames pour revenir sur les matchs du soir, parce que les Bleus ont joué hier, mais ce soir il y a pas mal de grosses nations. On sera avec Johan Crochet, avec Julien Laurence, avec Paulo Breitner, puisque tous ces pays jouent, à commencer par Italie, Angleterre. L'affiche du soir que l'on suit en direct avec Salim Bongali. Salut Salim.
Salut messieurs, 63 minutes 0-0. Salut. Affiche salut, sur Salim. Le papier, mais pas affiche de la réalité, hein. Il y a rien. Mais rien. Tiens, un événement, il y a un changement. Voilà, c'est le gros truc pour le coup. Scamacca qui sort remplacé par Nyonto, un joueur de West Ham qui est remplacé par un joueur de Leeds. Oui, très peu d'opportunités pour être très sérieux un instant. Et effectivement, on a juste vu l'Angleterre il y a quelques instants pousser et avoir une belle opportunité, en tout cas une belle action construite avec Harry Kane qui avait essayé de centrer au second poteau pour Phil Foden. Mais honnêtement, on comprend pourquoi l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde. On comprend pourquoi l'Angleterre va peut-être être en Ligue B, Ligue des Nations, parce que c'est pauvre, très pauvre, et l'Angleterre inquiète à 2 mois du Mondial.
Et c'était quand même la finale.
Ah, ça paraît loin hein, quand même. Hein.
Ah oui, c'était il y a au moins une quinzaine de mois, non?
Exactement, c'est ça. Non, mais c'est, je vous assure, l'Angleterre qui inquiète énormément l'Angleterre, et on comprend pourquoi. Il n'y a aucune occasion. Défensivement, Southgate a préféré solidifier sa défense comme il le fait habituellement, et le trio offensif Foden, Sterling, Kane ne se trouve absolument pas.
Il a mis Maguire.
Évidemment, Harry Maguire qui est de nouveau titulaire, lui qui ne joue plus avec Manchester United. Alors pour le coup, lui n'a pas forcément à être critiqué hein, sur ses 63 premières minutes puisqu'il n'a pas eu beaucoup de boulot. Ouais. Mis à part une tête de Scamacca qui a trouvé la barre, de Nick Pope qui a repoussé le ballon sur sa barre. Mais sinon, je vous assure, très peu d'opportunités de part
des
deux.
Mais des fois, les gars, de temps en temps, ça nous arrive, coach Kevin, de critiquer un peu Didier Deschamps. Ça vous arrive surtout. Mais les Anglais, avec Gareth Southgate quand même, hein, c'est...
Ah ouais, tu veux dire que c'est pire, ouais, d'accord.
Pas si c'est pire, mais en tout cas il y a de quoi dire.
Dans le même vrai groupe, on peut penser, plaisanterie mise à part, on peut penser quand même qu'il peut faire pas mieux, qui peut faire et qui devrait faire beaucoup mieux avec cet effectif.
Mais il a quand même bon une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro sur les quatre dernières années. C'est pas si mal, Salim. Mais bon, après, c'est vrai que dans le jeu, Julien Laurence nous le rappelle assez régulièrement. C'est très très compliqué au vu du matériel et de la qualité des joueurs qui sont sur la pelouse.
Et je vous rappelle, hein, sur les quatre derniers matchs et demi, en l'occurrence en Ligue des Nations, c'est un seul but marqué et encore un but marqué sur pénalty à la 89e minute face à l'Allemagne. Sinon, aucun but dans le jeu.
Merci Salim, à très vite dans l'autre match du même groupe, puisqu'il y avait l'Allemagne dans ce groupe contre la Hongrie. Eh bien, c'est toujours la Hongrie qui mène 1-0, but de Salah à la 17e, sur les 24 minutes de jeu.
Un but magnifique.
Si tu veux, dans le groupe de la mort, donc avec Italie, Angleterre et Allemagne, c'est la Hongrie qui est en tête, quoi. Pourquoi pas?
Bah oui, si je te fais un classement live, la Hongrie première 10 points, l'Allemagne et l'Italie deuxième avec 6 points, l'Angleterre dernière avec 3 points, effectivement. Immense surprise. On continue de suivre ces rencontres. Il y a un autre match. Alors là, il n'y a pas d'enjeu, même si Italie-Angleterre et Allemagne-Hongrie, les enjeux sont pas fous non plus. C'est la Ligue des Nations. C'est le Brésil qui est en préparation. Le Brésil face au Ghana. Ça se passe en France. C'est au Havre, au Stade Océane, où on a envoyé Valentin Jamin. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Et il y a des buts ici, 3-0 pour le Brésil après 77 minutes de jeu, but de Marquinhos et doublé de Richarlison, le tout en première période. Très facile pour le Brésil, pour tout vous dire. Il y a vraiment pas match pour ces Brésiliens qui restent sur 10 victoires et 3 nuls sur leur dernière rencontre. Ils montent en puissance pour le Mondial, où dans la poule il y aura la Serbie, la Suisse et le Cameroun pour les Brésiliens. On se permet de faire tourner. Neymar est encore sur la pelouse, tout comme Marquinhos notamment. Côté parisien, on a vu Vinicius qui a cédé sa place à Anthony, Matheus Cunha entré à la place de Richarlison. Tout ça pour vous dire qu'il y a un potentiel offensif assez incroyable dans cette équipe du Brésil qui mène face au Ghana, notamment d'André Ayou. 3-0 après 77 minutes de jeu.
Pas de blessés, ça va? Pas de blessés, pas de bobos,
mais Neymar qui prend un jaune et qui crie sur un arbitre français, en l'occurrence Willy Delageaux. Donc un petit air de Ligue 1 ce soir quand même dans ce Brésil-Ghana.
Merci Valentin, on continue de suivre tous ces matchs bien sûr dans l'after et le débrief là de nos matchs européens à 23h30 avec Kevin Diaz, Roland Courbis et les drôles de dames qui seront là sur tous ces sujets. Le sommaire d'il y a quelques minutes, ces matchs évidemment vous attend les gars, vous faites le 32-16, Adrien est là au standard, venez débattre avec l'after. Je vous lis aussi sur Twitter, le hashtag RMC Live, si vous êtes comme Daniel Riolo, vous n'avez pas Twitter, n'hésitez pas, le direct studio pour envoyer vos messages, les pas applis RMC RMC Sport, voilà, n'hésitez pas, oui, ou sur les comptes Insta aussi, parce que maintenant Daniel est sur Insta, donc voilà, on est là, on est partout,
n'hésitez pas. Nous aussi, on est sur Insta.
Exactement, Kevin Diaz, c'est 11. 11, voilà, parce qu'il y a Kevin Diaz 11, Daniel Riolo 1. Ouais. Coach, t'es sur Insta ou pas, toi, Roland?
Ah, les deux. Polyvalent.
Exceptionnel.
Ah ouais, je me promène.
Merci d'être avec nous, en tout cas, on est ensemble en direct jusqu'à minuit. Et on commence tout de suite par l'équipe de France qui s'est imposée 2-0. Jingle, Kevin Diaz.
Je l'ai vu la dernière année quand il jouait à Lusitanos. Oui. Mais bon, c'est quand même le meilleur tireur de coup de pied arrêté que j'ai vu de l'année. Toutes divisions confondues.
Qui c'est qui t'avait fait ce compliment? Tu te souviens?
C'est un célèbre agent.
Ouais, Bruno Satin.
Eh oui, bien sûr, je me souviens. Ouais, c'était un bon compliment.
Ah ouais, ah bah oui. Ouais,
mais il aurait pu s'occuper de ma carrière un peu avant, je pense. Ouais. J'aurais peut-être fini en Ligue 1 ou en Ligue 2.
Alors Kevin, ton avis tranché ce soir concerne l'équipe de France et Kylian Mbappé que tu as observé hier soir, et tu vas nous donner ton avis dans un instant, parce que il nous disait qu'il ne se passait rien, que ça allait se terminer sur un pauvre 0-0. Salim Bongali nous avait menti.
Absolument, Raspadori, quel but magnifique pour l'équipe d'Italie après 68 minutes, un long dégagement aux abords de la surface de réparation, un contrôle en porte-manteau qui nous rappelle un beau numéro 10 français. Il est à l'entrée de la surface de réparation, il se décale un petit peu dans l'axe, c'est ça évidemment. Et la frappe enroulée, petit filet opposé, qui nous rappelle d'autres joueurs français évidemment. 1-0, un but absolument sublime pour l'Italie face à l'Angleterre. Au moment où nous parlons, l'Angleterre est en Ligue B.
On peut dire que c'est un but à la Mbappé, effectivement.
Ah ouais, quel but, vraiment, la petite filet opposée. Après, j'insiste, le contrôle qui lui permet de garder cette balle. Bonucci en profondeur.
Mais n'inquiète pas, les Anglais vont trouver une astuce là avec le coach et tout, tu vois, ils vont égaliser.
Un coup de génie, tu voudrais dire?
Il va réfléchir. Ouais. Et quand il commence à réfléchir et à froncer les sourcils avec le front qui est tout ridé, là, tu es sûr que tu te trouves un truc.
Bon, et bah écoute, Salim, tu surveilles le coup de génie. génie de Southgate.
Je surveille les sourcils de Southgate.
Et si jamais coup de génie il y a, t'hésites pas, tu nous coupes, hein, parce qu'on voudrait pas rater ça.
Du coup, on remet le jingle.
Ah, on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait se remettre le jingle, parce que souvent les jingles avis tranchés, bon, c'est des petites saucisses que vous nous sortez, les gars. Là, on va en profiter pour le kiff pour Kevin Diaz, avis tranché.
Je l'ai vu la dernière année quand il jouait à Lusitanos. Oui. Mais bon, c'est quand même le meilleur tireur de coup de pied arrêté que j'ai vu de l'année. Toutes divisions confondues.
On va pas te le remettre trop non plus, faudrait pas que t'attrapes le boulard. Kevin, Kylian Mbappé donc, hier soir.
Il a dit un tireur de coup de pied arrêté, il a pas dit un tireur de coup franc, donc ça peut être les 6 mètres qui tirent.
Ah, ouais. Tu faisais les 6 mètres, tu descendais et aidais ton gardien.
Non, je faisais pas les 6 mètres. Je faisais des bonnes touches par contre. Le coach aurait aimé.
Ah bon?
Touche rapide, très longue sur le long de la touche.
Oui, c'est vrai?
Pour surprendre la défense. Ah oui, j'ai déjà fait
des longues touches.
Bah, pas haute, mais longue et tendue.
Tu n'as pas le physique, fin,
faut,
etc.
Faut,
mais...
faut se méfier.
Ouais.
Faut se méfier.
T'as surprenant. Bon, passons sur
Kylian Mbappé.
Donc, tu as vu hier. Et tu penses, quand tu vois ce match hier, qu'il a besoin, à côté de lui, d'un numéro 9, d'un vrai numéro 9, Kevin?
Bah, je pense que d'abord, il est d'accord avec moi, puisque au vu de la déclaration de Kylian Mbappé après le match, disant qu'il se sentait un peu plus libre dans le système de l'équipe de France, notamment hier soir. Et pour moi, ça a été clair, ça a été criant dès la première mi-temps. Kylian Mbappé, on le dit avec Daniel, qui est d'accord avec moi sur ce sujet, c'est un attaquant gauche, c'est pas un ailier. Et c'est Paulo Breitner qui nous expliquait qu'en Allemagne, on parle d'attaquant d'aile. En France aussi, à un moment, on parlait d'arrière d'aile, d'attaquant d'aile. Et maintenant, on a les ailiers. Pour moi, un ailier, c'est plus un passeur. Et disons qu'un attaquant d'aile, c'est un joueur qui peut jouer à trois devant sur un côté, mais qui est là pour marquer des buts.
Les ailiers aujourd'hui, ce sont les pistons.
Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont plus des pistons. En tout cas, Kylian Mbappé, c'est un peu comme Marcus Rashford aussi, qui est dans ce profil-là, qui était formé peut-être comme un attaquant avant-centre, mais qui aujourd'hui est plus à l'aise sur son côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Mais pour pouvoir rentrer sur son pied droit, il faut quand même qu'il y ait un point de fixation pour Kylian Mbappé avec le ballon, pour un éventuel appui remise, mais également un point de fixation pour la défense. Parce que la défense, lorsqu'elle a un Giroud ou lorsqu'elle a un Benzema qui est là, qui peut aussi faire cette planche pour un appui remise à Kylian Mbappé, ou pour une demande en profondeur avec un relais, pourquoi pas, et une passe dans l'intervalle d'un milieu de terrain, eh bien ça donne beaucoup plus de palette au jeu de Kylian Mbappé. Je n'ai jamais cru qu'il pouvait jouer avant-centre, surtout pas dans un 4-3-3, à la rigueur à deux attaquants, comme ça avait été le cas certaines fois à Monaco. Mais en tout cas, dans un 3-4-3, dans un 4-3-3, Kylian Mbappé, là où il est le meilleur, c'est à gauche. Je reviens à ce qu'a dit Luis Campos. Oui, c'est le poste préférentiel également d'un certain Neymar, qui malgré que ces deux joueurs-là aiment jouer avec le numéro 10, ce sont deux faux ailiers gauche ou faux attaquants gauche qui aiment partir de cette position. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'axe du jeu, tu as deux défenseurs sur le dos ou un milieu de terrain sur le dos. Par contre, ton arrière-droit, il ne te suit quasiment jamais dans l'axe parce qu'il ne peut pas déserter son couloir, sinon il est pris par un joueur justement piston qui peut être soit Ferland Mendy en équipe de France, soit Hernandez, et au Paris Saint-Germain c'est Nuno Mendes. Tout ça pour dire que Kylian Mbappé, c'est donc un attaquant gauche, mais qu'il aime prendre l'axe, et pour prendre l'axe il faut que quelqu'un lui fasse cette fixation qui permet à la défense d'être surpris par l'appel encore plus de Kylian Mbappé avec sa vitesse, notamment dans les phases de transition.
Comme Giroud l'a fait hier, supporter de l'équipe de France.
Comme Benzema peut le faire aussi.
N'hésitez pas, le 32-16, vous appelez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Kevin? Dans un instant, la réponse de Roland Courbis sur ce sujet, d'accord ou pas, coach, tu vas nous dire ça. Dans un instant, je voudrais juste rappeler, tu parlais de ce qu'a dit Mbappé hier, je vais vous lire ce qu'il a déclaré, la citation. Je cite, « Je joue différemment, on me demande d'autres choses ici par rapport à mon club, j'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe défense et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. » Dans un instant d'ailleurs on pourra aussi débriefer cette citation qui correspond à ton avis tranché. Et puis on fera un point bien sûr sur les matchs en direct ce soir, ça n'a pas bougé. L'after continue, je vous lis hein, bien sûr sur Twitter Direct Studio. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Roland Courbis, nous sommes vendredi le 23 septembre. Merci d'être là, ça fait plaisir. On est en direct jusqu'à minuit. Pas de match ce soir, pas de gros match qui nous intéresse, que ce soit la Ligue 1 ou les Bleus. Bien sûr, on suit l'Italie contre l'Angleterre, toujours 1-0 pour les Italiens. Le Brésil qui se balade face au Ghana 3-0. Les Allemands sont toujours menés 1-0 par la Hongrie. On refera un point sur toutes ces rencontres dans quelques minutes. Juste avant la petite pause, Kevin nous a fait son avis tranché sur Kylian Mbappé, qui a, d'après lui, besoin d'un numéro 9 pour s'exprimer au mieux. Supporters des Bleus, n'hésitez pas. Vous faites le 32-16 si vous êtes d'accord ou pas, justement, avec Kevin. Venez en débattre. Je vous lis également sur le direct studio, sur le hashtag RMC Live. Coach, tu as entendu religieusement Kevin. Un œil sur Kevin, un œil sur les matchs. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec Kevin Diaz?
Ben, disons que c'est pour moi une logique, c'est une évidence que je ne sois pas d'accord. Après, le seul truc où je peux ne pas être d'accord, c'est dans la présentation. Parce qu'au lieu de dire que Kylian Mbappé a besoin d'un numéro 9, on peut commencer déjà par le commencement, si je peux m'exprimer ainsi. C'est de dire que Kylian n'est pas un numéro 9. Il peut dépanner en numéro 9. Et c'est pas d'aujourd'hui que c'est pas un numéro 9. Depuis qu'il démarre à Monaco à 17 ans, là où il a été le meilleur, c'est dans un 4-2-3-1, en retrait de Falcao. Donc, et c'est là qu'il a commencé à sortir un petit peu au dernier moment, accélérer en prenant ses élans. Et tu t'imagines un garçon comme Mbappé, quand tu lui laisses la possibilité de prendre ses élans, plutôt que de le mettre en pointe à la limite du hors-jeu, ce qui est un peu du gaspillage, mais il est tellement fort qu'il peut te faire aussi le rôle de numéro 9, mais pour moi, pour dépanner. Et en ce qui concerne l'équipe de France, ben nous avons le choix entre Benzema et Giroud pour pouvoir être complémentaire avec Mbappé. Ensuite, en ce qui concerne le nom, les ailiers, pas les ailiers, les attaquants offensifs, etc. Évidemment qu'un attaquant, il est offensif. Mais dans cette nouvelle organisation qui est à la mode, que beaucoup d'équipes mettent, à savoir le 3-4-2-1, et qu'on peut dire que c'est deux avant d'arriver au 1. Le 1, c'est le numéro 9. Et les deux autres, en considérant que ce sont deux numéros 10. Mmh. En équipe de France, c'est par exemple Griezmann et Mbappé. Eh bien, c'est ça le poste d'Mbappé. Et à la gauche d'Mbappé, il y a encore un couloir qui ressemble aux ailiers de l'époque.
Donc, pour toi, pour être clair, coach, d'accord ou pas avec Kevin, qui Mbappé serait meilleur avec un numéro 9 à côté, un vrai numéro 9? Parce que hier, est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire qu'hier Mbappé fait le meilleur match de sa saison ou pas? Quand on regarde ce qu'il a fait avec Paris et ce qu'il fait hier avec les Bleus.
Oui, un de ses meilleurs matchs, oui, mais c'est pas la première fois, y compris même au Paris Saint-Germain, qu'on voit Mbappé se balader un petit peu sur tout le front de l'attaque, en pointe, décraché, un peu à droite, un peu à gauche, et que chaque fois qu'il est à gauche, eh ben il est beaucoup plus performant que quand il est en pointe. Et ensuite, nous avons des pistons qui sont aujourd'hui les ailiers d'une autre époque que j'ai eu le plaisir de connaître. Mais ces pistons qui sont là pour centrer, faut-il encore que à la réception des centres il y a un numéro 9? Les numéros 9, ce sont Haaland, Lewandowski, ce sont pas Mbappé.
Oui, parce que non seulement il est plus à l'aise quand il démarre de la gauche, mais au Paris Saint-Germain, des fois, il se décale à gauche. C'est pas un souci, il a cette liberté. Mais lorsque tu te décales à gauche et que tu as un appui comme Benzema, comme Giroud hier soir, il y a une action en première mi-temps où derrière, il rate après son pointu, son dernier geste. Mais il y a un appui remise avec Giroud, mais c'est là où il est indéfendable. Si c'est lui le point de fixation, déjà, il prend les défenseurs dans le dos et c'est vraiment pas très agréable. Alors même si des fois, il arrive à s'enfuir avec un appui et un 1-2 avec Messi ou Neymar, avec le Paris Saint-Germain. Mais là, quand c'est lui qui vient lancer et qu'il passe le ballon à la planche, donc en l'occurrence Olivier Giroud, qui lui remet en une touche en déviation, mais à la vitesse d'exécution de Kylian Mbappé, c'est indéfendable. À ce niveau-là, il n'y a que le hors-jeu qui peut l'arrêter, ou une faute.
Et ce que je suis obligé de rappeler, c'est qu'il y a quelques années de ça, avant évidemment la punition de Benzema, et avant qu'arrive Mbappé, les débats, c'était Giroud ou Benzema, Benzema ou Giroud. Et je me battais, moi, dans ces débats pour dire, mais pourquoi on veut mettre l'un ou l'autre et qu'on peut pas penser de l'un et l'autre? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un règlement, quel que soit le sélectionneur, qui empêche un sélectionneur ou un entraîneur de faire jouer en même temps un 4-2-3-1 dans un plan B? Tu démarres avec trois arrières centraux et tu termines avec deux arrières centraux et un offensif de plus. Et le plan B, je te le donne. Giroud en pointe, Benzema en retrait de Giroud, Mbappé à gauche et Griezmann à droite. Dembélé, en plus de ça, avec le gaucher à droite et le droitier à gauche, qui va rentrer vers l'intérieur pour ouvrir le couloir aux latéraux. Je pense pas, qui a besoin d'être dans la famille d'Einstein pour penser à ça.
Écoute, coach, je suis sur le site de la FIFA, là, je suis dans les règlements, a priori, il n'y a rien qui l'interdit.
C'est bon, enfin, mais tu m'auras sûr, parce que pour un moment, j'avais peur qu'il y ait un règlement qui m'ait échappé quand même.
Le 32-16, Azeu a fait le 32-16. Salut Azeu, bienvenue dans l'After.
Bonjour.
Salut, salut Azeu. Sois le bienvenu Azeu, fidèle auditeur. Je vois souvent tes messages sur le direct studio, je me trompe ou pas?
Eh ben oui, ben du coup on m'a rappelé parce que j'étais intervenu, j'avais envoyé un message. Ouais. Ça fait plaisir de passer à l'antenne.
Ben on est content de te recevoir, bienvenue.
Merci à toi.
Donc voilà, ben je suis entièrement d'accord avec coach, hein. De toute façon, avec les fameux 5 changements qu'on a actuellement, on a la possibilité de faire rentrer un petit peu tout le monde en pointe.
Absolument.
Donc là-dessus, c'est pas un souci. Par contre, moi j'intervenais, c'était surtout pour mettre un détail. Je trouve que Mbappé a tendance à monopoliser trop le jeu du côté gauche. Alors je m'explique, il a soi-disant un rôle de 9,5. Je pense que Griezmann, qui joue 10, a plus tendance à être aujourd'hui un 8,5. Il recule beaucoup plus. Alors c'est pas dérangeant en soi. Par contre, le jeu est vraiment centré que sur la gauche. Et du coup, côté droit, il se passe pas grand-chose. On a un piston droit. Klose, alors je l'apprécie énormément parce que je suis supporter à Lensois, donc je suis pas spécialement objectif, mais je trouve que ils ont tendance à pas toucher beaucoup de ballons. Ça a été exactement le même cas avec Coman, même s'il joue un rôle un petit peu plus offensif. Par contre, ça manque justement d'activité du côté droit. Donc Griezmann reste très centré, Mbappé.
Mais excuse-moi de te couper, le problème, il est là. Malheureusement, on n'a pas la possibilité, et je ne vais pas me transformer en professeur, mais j'ai quand même la prétention de pouvoir vous expliquer des choses que j'ai réfléchi pendant de longues années pour arriver à trouver les solutions. Il y a, si tu veux, plusieurs lignes. Une ligne de 3, arrière centraux. Une ligne de 4, dans un 4, dans 3, un 4, 3, 4, 2-1. Hein, je préfère insister sur le 2-1, parce que moi, il y a une énorme différence entre le 2-1 et le 1-2. Donc dans le 2-1, eh bien tu dois avoir Griezmann qui se balade dans cette ligne et qui s'écarte sur le côté droit, Mbappé qui s'écarte sur le côté gauche. On essaye de les trouver, ils rentrent vers l'intérieur. Et pour moi, dans l'axe, on y vient depuis l'extérieur vers l'intérieur. On n'y est pas déjà dans l'axe. Sinon, ça facilite pour moi le jeu des adversaires. Et quand tu as un Griezmann qui reçoit le ballon, en plus il est gaucher, dans son contrôle orienté, il rentre vers l'intérieur et il ouvre le couloir à Klose.
Et d'ailleurs, souvent, alors là, le coach parle fort justement de 3-4-2-1. Mais ça se transforme souvent au plus haut niveau en 3-2-5. On va dire que tu sais, il y a ces fameux 5 couloirs là, les interespaces qui sont rajoutés aux couloirs normaux. Et donc en fait, chaque interespace, chacun de ces 5 couloirs sont occupés de droite vers la gauche par un piston, un milieu offensif, l'avant-centre, l'autre milieu offensif gauche et le piston gauche. Et donc en fait, c'est très difficile à défendre pour l'adversaire, parce que il y a une ligne de 5 qui est quasiment alignée, et ensuite c'est par contre aux deux numéros 6 de trouver la bonne passe dans l'intervalle. C'est ce qu'arrive à faire de très belle manière, notamment Manchester City, mais parce que le niveau technique de tous les joueurs est très élevé. Oui. Le niveau technique des milieux de terrain de l'équipe de France l'est pour Tchouaméni, pour Pogba? Je pense qu'il n'y aura pas de problème, même pour N'Golo Kanté. Maintenant, il y a aussi des joueurs un peu moins bons techniquement en équipe de France au milieu.
Puis après, une précision que je suis obligé de donner, vas-y. C'est pas non plus une obligation, tu regarderas encore dans le règlement.
J'y suis, vas-y.
Quand tu mets déjà 3 arrières centraux, ben c'est déjà pas mal de mettre 3 arrières centraux. De mettre en plus 2 numéros 6 devant les 3 arrières centraux, c'est pas une obligation. Ah ben alors là... Tu peux en mettre un et mettre après, au lieu d'avoir un autre numéro 6, ben un numéro 8. Ouais. Et à ce moment-là, tu n'as pas que Griezmann, tu peux arriver à trouver une formule, par exemple. Si tu veux absolument faire jouer Griezmann, c'est pas interdit non plus, là, de faire jouer Griezmann et Nkunku.
Si là, je suis sur le site de la FIFA.
Je suis obligé de te dire coucou.
Apparemment, c'est interdit finalement ça.
D'accord. Ouais. Bon, donc,
on va faire une pause, les gars.
Dans le dictionnaire du sélectionneur, oui.
Oui, ça dépend. Voilà, chacun trouve son règlement. Azeu, est-ce que tu veux rester encore avec nous? On parle des Bleus dans quelques minutes. Ou t'es occupé
comme
ce soir?
Comme vous voulez. Bah, c'est dans tous les cas, les gars, vous nous régaler, continuez comme ça.
Bah, merci à
toi. Merci à toi.
Bah, reste là, écoute, ne bouge pas. On revient dans quelques instants, il est 22h28, c'est l'after avec Roland Courbis et Kevin Diaz. Dans un instant, on continue de parler de l'équipe de France. Faites comme Azur, n'hésitez pas, vous pouvez appeler le 32-16. Adrien vous attend au standard dans quelques instants. C'est coach Courbis qui va nous donner son avis tranché. Coach qui préfère cette équipe de France, celle d'hier avec tous ses blessés, là, une sorte d'équipe bis, à l'équipe de France de l'Euro 2021. Roland nous explique tout ça dans quelques minutes. D'ici là, un tour des stades, c'est terminé pour le Brésil au Havre face au Ghana, Valentin Jamin.
Le Brésil facile, vainqueur du Ghana 3-0, but de Marquinhos, doublé de Richarlison. Prochain match contre le Brésil mardi face à la Tunisie au Parc des Princes. Ensuite, ce sera direction le Mondial, alors que le Ghana, qualifié également pour la Coupe du Monde, défiera le Nicaragua. Victoire 3-0 du Brésil contre le Ghana.
Ils ont été bons, les Neymar, Marquinhos, ceux qu'on connaît.
Oui, en fait, ils ont fait une très bonne première période. Et quand vous menez 3-0 à la mi-temps en match amical, pas de prise de risque, maîtrise totale et victoire logique et méritée pour les Brésiliens, notamment ceux qui jouent en Ligue 1.
Merci Valentin, bon retour.
Bonne soirée messieurs, bonne émission.
Tout à l'heure. Salut Valentin. Salut Bongali, Italie, Angleterre, les dernières minutes de ce match de Ligue des Nations.
Il reste 4 minutes dans cette rencontre. 1-0 toujours pour l'Italie face aux Anglais grâce au but de Raspadori à la 68e. Et depuis, ça s'est réveillé des deux côtés. Double opportunité pour Harry Kane et double parade de Donnarumma. Et puis, quelques instants après, c'est Gabbiadini entré justement en jeu à la place de Raspadori qui a frappé. Il a vu Nick Pope repousser. Et juste après, Di Marco, Federico Di Marco qui a trouvé le poteau de Nick Pope. Toujours 1-0 pour l'Italien. Pour l'instant, l'Angleterre est en Ligue B.
Merci Salim, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette rencontre. Deux, trois messages rapidement sur le hashtag RMC Live. Pascal écrit, sauf que Giroud n'est pas dans les plans de Deschamps, que Dédé va le laisser à la maison. Ou sur le direct studio, j'ai Mamad qui écrit, cette équipe de France manque clairement d'un Kevin Diaz pour tirer les coups de pied arrêtés. 22h30, la fleur continue avec Kevin, avec Roland et avec vous tous. Merci d'être là, tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Roland Courbis, on est en direct jusqu'à minuit, évidemment avec vous aussi. Soit vous nous écoutez, merci déjà, ça fait plaisir. Soit vous nous appelez au 32-16 pour participer à nos débats équipe de France jusqu'à 23h. Ou alors vous commentez l'émission sur le hashtag RMC Live, sur Twitter, sur le direct studio. Beaucoup de messages. C'est déjà un message d'Olivier que je voudrais lire. Salut tout le monde, je m'appelle Olivier, je suis français vivant en Australie. L'afterfoot, c'est tôt le matin pour moi. Eh bien écoute Olivier, bonjour à toi. Bon début de journée, il est 22h35 en France. Merci d'être là ce matin. Et d'ailleurs Olivier qui vit en Australie, on sera pas copains pendant la Coupe du Monde, hein. Il y a ce France-Australie pour démarrer le Mondial. Les Bleus, justement, on va en reparler dans quelques instants avec l'avis de coach Courbis qui a préféré cette équipe bis hier à l'équipe qui était à l'Euro 2021. Mais avant, un point sur nos directs et notamment ce Italie-Angleterre qui se termine, c'est la Ligue des Nations. Salim Bongali.
Oui, il reste encore 4 minutes dans le temps additionnel puisque l'arbitre a donné 6 minutes puisqu'en début de seconde période il y avait eu un coup et Harry Kane était resté au sol pendant de longues secondes, toujours 1-0 pour l'Italie. Dans ce temps additionnel, il y a eu plusieurs changements qui ont été effectués, notamment Jack Grealish qui est entré il y a quelques minutes côté anglais. Les Anglais qui essayent de tout faire pour égaliser avec Declan Rice qui a cette balle aux abords de la surface de la passe. Va-t-il tenter la frappe? Oui, il la tente. Et Gigi Donnarumma qui capte la balle sans aucun problème. Toujours 1-0 pour l'Italie face à l'Angleterre. Au moment où nous parlons, l'Angleterre est en Ligue B. Et attention, ça a son importance, je le rappelle, parce que si l'Angleterre va en Ligue B, eh bien l'Angleterre sera dans le chapeau 2 des éliminatoires du tirage au sort pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Et donc, on pourrait pourquoi pas avoir un France-Angleterre dans le même groupe.
Alors, et ça, il faut que la France se maintienne dans son groupe A, du coup.
Absolument.
Parce que, bon, le scénario est improbable, mais pourquoi pas dimanche, si on perd contre le Danemark et que dans le même temps, l'Autriche bat la Croatie, on serait comme les Anglais en groupe B. Dans l'autre, merci Salim, on se retrouve très vite. Dans l'autre match de ce groupe, la Hongrie mène toujours 1-0 en Allemagne, 93e minute. Et ce qui fait que dans ce groupe qu'on annonçait groupe dans la mort, ben pour l'instant, c'est la Hongrie qui se qualifie pour le Final Four de cette Ligue des Nations.
C'est la Hongrie qui reste vivant.
Eh oui. L'Italie est deuxième avec 8 points, l'Allemagne troisième avec 6 points. On débriefera ces rencontres à 23h30 avec les drôles de dames, avec Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet.
Faudra quand même aussi parler de l'hécatombe de blessés sur toutes les pelouses. Alors, pour l'équipe de France, malheureusement, on a pu le constater, mais les Pays-Bas aussi, avec Frenkie de Jong, avec Memphis Depay, pourtant Memphis Depay qui n'a pas joué énormément de matchs avec le Barça, mais il y a un moment, il va falloir quand même que les dirigeants du football mondial et du football européen, notamment, comprennent que ces calendriers, peu importe la condition physique des joueurs, c'est insupportable. C'est insupportable physiquement, c'est insupportable psychologiquement, et puis même au niveau du spectacle, à partir du moment où tu vois des équipes B, chaque week-end quasiment en Ligue des Nations, j'ai rien contre la Ligue des Nations. Moi, j'apprécie plutôt cette compétition qui a remplacé les matchs amicaux. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait moins de matchs, il faut que le calendrier soit mieux fait.
peut-être un avis tranché à mettre de côté pour qu'on le développe dans les prochains jours, Kevin. Je vous rappelle qu'à partir de 23h, on parlera de l'OGC Nice, hein, supporter niçois 32-16, n'hésitez pas. Lucien Favre qui reste finalement contre toute attente, et c'est une bonne nouvelle pour l'OGC Nice. Le 32-16 est ouvert. On aura du tennis également ce soir parce que on y est. La dernière danse de Last Dance, comme disent les Texans, pour Roger Federer ce soir, la Lever Cup, il dispute le double, le dernier double de sa carrière avec Rafael Nadal. Ça a pris du retard. Sachez qu'Eric Salio est sur place à Londres, mais il y a d'abord un simple entre Murray et deux mineurs. On est dans le dernier set. Et ensuite, ce sera Federer et Nadal. On retrouvera Eric Salio tout à l'heure. 22h38, l'équipe de France au programme avec la vie tranchée concernant ces bleus de Roland Courbis. Jingle.
J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire des contrôles inopinés, mais il y a des moments pour les faire.
J'aime beaucoup celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu.
Incroyable celui-là.
Roland, ton avis sur cette équipe de France, bis qui t'a beaucoup plu.
Avant de donner mon avis, je te donne une précision, c'est-à-dire quand je me trouve dans la possibilité et dans le plaisir de pouvoir, avec mon expérience et mon âge maintenant, de conseiller quelque chose. Disons que je dis toujours, on peut progresser et on progresse à tout âge, quel que soit que ce soit un coach, que ce soit un président, que ce soit un directeur sportif, que ce soit un joueur.
Journaliste.
Et là, je constate hier, des progrès de Didier Deschamps. Non, mais oui.
Alors, quel point de vue?
Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Mais quel point de vue? C'est que si on fait la comparaison avec ce qui est c'est pour moi un des souvenirs catastrophiques, compte tenu de la façon dont nous avons été éliminés de cet euro il y a une quinzaine de mois, il n'y a pas si longtemps que ça, avec une organisation à 5. Je rappelle quand même ce qui s'est passé dans cette organisation à 5. Si je me rappelle bien, vous me le dites, mais si je me rappelle pas bien, vous me le dites aussi. Je crois savoir que Pogba, qui est aujourd'hui dans une autre affaire que conseil de sélectionneur, donc là, conseille donc le sélectionneur Didier Deschamps de jouer à 5 contre la Suisse parce que ça serait mieux. Eh bien, Didier Deschamps réfléchit et il nous invente un Langlais axial au milieu de Varane et de Kimpembe, un couloir à droite qui s'appelle Pavard et un couloir à gauche qui s'appelle Rabiot. Si tu veux faire une organisation à 5 plus catastrophique que ça, tu n'y arrives pas, même en le faisant exprès. Et j'explique pourquoi. Parce que déjà, les arrières centraux, quand hier je vois, et je rigole dans ma barbe, qu'on a trouvé Varane très très bon. Ben bravo, il a joué à son poste. C'est-à-dire que les trois arrières centraux d'aujourd'hui, ce sont des postes différents. J'ai pas l'impression que tout le monde est au courant. Si par exemple tu fais jouer Varane arrière central côté droit, c'est comme si à une certaine époque tu faisais jouer Beckenbauer stopper. Mais ça choque personne. Et quand donc on s'aperçoit qu'on fait ces conneries, et aujourd'hui, pourquoi je préfère cette équipe bis? Ben tout simplement parce que je préfère Klose couloir droit que Pavard. Je préfère arrière central côté droit Koundé ou Saliba que Varane, qu'on le décale, que c'est pas son poste. Un arrière central gaucher dans une organisation à 5 d'un joueur qui n'a jamais joué à ce poste-là, eh bien, on met Varane, ce qui était le cas. À gauche, il n'y avait pas Kimpembe, il n'y avait pas Hernandez. On met Badiachil, qui est un arrière central gaucher. Et couloir, on met Mendy. Je trouve que tu as tout juste, pratiquement, ou dans le pire des cas, les 4 sur 5, je ne vois même pas, non, 5 sur 5. Et ça, je dis que quand j'entends après la raison pour soi-disant laquelle nous sommes fait éliminer par la Suisse, comme quoi c'était scandaleux quand on est à 3-1 de se faire remontrer à 3-3, non, là on ne peut pas être d'accord. On peut pas être d'accord. Donc pour moi, l'élimination contre la Suisse, c'est dans cette première mi-temps avec cette équipe en bois. Et quand après on change à la mi-temps et qu'on met Coman, qu'on recadre Varane dans l'axe, qu'on met
Rabiot,
Pavard côté droit,
oui.
que Et bien là, qu'on ressemble à une équipe, ben bizarrement, c'est pas 3-1, c'est 3-0 qu'on met à la Suisse. Donc ça, pour moi, ça me reste en travers comme un mauvais souvenir. Et c'est pour ça que hier, quand je vois, waouh, des joueurs à leur poste, on est quand même dans l'autre haut niveau, et ben j'applaudis. On va pas toujours ne pas être d'accord avec notre sélectionneur et pensant que c'est nous, c'est lui le sélectionneur. Si c'est lui le sélectionneur et pas nous et pas moi, ben c'est qu'il est supérieur à nous, mais tout en étant supérieur à nous, on peut ne pas être d'accord et en démontrant le pourquoi on n'est pas d'accord. C'est tout.
J'espère que Didier Deschamps écoute l'after ce soir.
Et autre chose, excuse-moi de te couper, quand j'entends qu'il y a des débats, ou alors on a vraiment l'impression que on veut user la salive de savoir qui c'est qui va être sélectionné entre Benzema et Giroud. Ils ont 70 ans à tous les deux. Donc moi, je me ferai le souci de savoir qui c'est qui peut jouer le plus dans un match de 93 minutes et que l'autre, après, lui passe le relais. Et quand j'entends ça, excusez-moi une fois de plus de ne pas être d'accord avec notre sélectionneur.
Dans quelques instants, la réaction de Kevin au 32-16 également. N'hésitez pas, venez réagir à ce que vient de dire coach. Mais d'abord, c'est terminé à San Siro, Italie-Angleterre. Salim Bongali.
Et donc, l'Italie s'est imposée 1-0 face à l'Angleterre. Raspadori qui a marqué à la 68e minute. L'Italie qui jouera sa finale en quelque sorte dans 3 jours en Hongrie. En cas de victoire italienne, et bien cette squadra azzurra serait qualifiée pour le Final Four face à la Hongrie. En cas de victoire hongroise, ce serait le contraire. Pour l'Allemagne, c'est donc relégation en Ligue B. L'Angleterre qui sera en 2e division désormais de la Ligue des Nations. Et l'Angleterre, surtout sur les 5 derniers matchs de Ligue des Nations, c'est un seul but marqué, ce but sur pénalty. Tout va bien, à moins de 2 mois de la Coupe du Monde, côté anglais.
Merci Salim, bonne soirée et à très vite dans l'after, dans l'autre match du groupe. Il n'y aura pas de Final Four non plus pour l'Allemagne. L'Allemagne battue à domicile 1-0 par la Hongrie. C'est la Hongrie qui est en tête de ce groupe avec 10 points, 2 points de mieux que l'Italie. Donc c'est l'un de ces deux qui se qualifiera pour le Final Four de cette Ligue des Nations. On débriefera ces deux matchs à 23h30 avec Johan Crochet, Julien Laurent et Paulo Breitner. Dans un instant, on continue de parler de l'équipe de France avec vous au 32-16. Roland Courbis, Kevin Diaz et vos nombreux messages toujours. Merci d'être là sur le Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec un Roland Courbis en grande forme. Kevin Diaz également est là, en grande forme également.
Et oui.
Dans un quart d'heure, 10 minutes, allez. L'OGC Nice au programme, c'est le retournement de situation du jour. Finalement, Lucien Favre reste supporter niçois. Est-ce une bonne nouvelle pour vous? Le 32-16, n'hésitez pas. D'ici là, on va avoir dans quelques minutes l'entrée sur le court de Roger Federer pour le dernier match de sa carrière. Un double aux côtés de Rafael Nadal. C'est la Lever Cup. Eric Salio est sur place à Londres et dès qu'Eric nous appelle, on y va. On va vivre ensemble ce moment, l'entrée sur le court pour la dernière fois dans la carrière de Roger Federer. L'équipe de France, d'ici là, j'ai quelques messages à vous lire sur le Direct Studio. Ça réagit beaucoup. Arnaud écrit Deschamps, c'est le Sampaoli français. Il y a Emery qui écrit en direct.
Ça veut dire quoi?
Je sais pas. Arnaud développe, n'hésite pas. Emery qui écrit en direct d'Ibiza pour mes vacances. Malgré ça, j'écoute toujours l'after pour des analyses foot pertinentes. Merci en tout cas, Emery, d'être là. Bah, tiens, Ibiza, on a l'Australie, n'hésitez pas les gars, dites-nous où vous êtes là ce soir, où vous nous écoutez.
Ibiza, là c'est la fin là, des soirées là, c'est on arrive en automne, il y aura un peu moins de soirées. Après, il y a plein de choses à faire à Ibiza à part faire la fête.
Emeric, n'hésite pas à nous dire la température aujourd'hui à Ibiza et ce que tu fais de tes soirées. D'ailleurs, un vendredi soir à 22h49, moi si j'étais à Ibiza, je n'écouterais pas l'after. Mais merci en tout cas d'être là, ça fait plaisir. Les Bleus donc, vous venez d'entendre l'avis tranché de Roland Courbis qui se satisfait des progrès de Didier Deschamps, je le cite. Dans sa composition d'équipe par rapport à celle de l'Euro. Dans quelques instants, je vais reprendre.
Pas celle de l'Euro, celle de la finale. Des huitièmes de finale. Là où on se fait éliminer.
Merci pour la précision. Azeux, dans quelques minutes. Pas de quoi. Au 32-16. Kevin, d'accord ou pas avec Roland?
Oui, bah, bien sûr. De toute façon, pour moi, ce huitième de finale, honnêtement, j'ai toujours pas compris comment un entraîneur du niveau de Didier Deschamps avait pu proposer cette composition d'équipe, mais je pense qu'il l'avait vu assez rapidement puisqu'il l'a changé à la mi-temps.
Ah, il a inventé un poste avec l'anglais, c'est plus l'anglais, c'était l'intrus, ouais. En plein milieu de Ravan et de Kipembe.
Bon, après depuis quand même il y a eu d'autres compositions, hein, notamment en éliminatoire et puis en Ligue des Nations. Mais de toute façon, moi je suis pas un grand fan, hein, de ce 3-4-3, 3-4-1-2, 3-5-2 pour l'équipe de France. Je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure composition. Maintenant, c'est pas moi qui choisis.
Ouais, c'est quand même fou parce que vous vous souvenez les débats qu'on a eu avant que Deschamps passe derrière à 3. Tout le monde lui demandait de passer à 3 derrière.
Je suis pas sûr.
Tu faisais pas partie de cela, mais je me souviens des débats qu'il y a eu. Oui, c'est fou quand même.
Après, c'est une question de toute façon d'animation. Mais moi, j'ai aimé la composition d'hier et c'est là où on voit quand même le réservoir français qui est quand même assez exceptionnel. Parce que quand il te manque quasiment 11 joueurs, tu peux quand même aligner une équipe vraiment de grande qualité. J'ai aimé aussi la performance par exemple de Fofana pour sa première titularisation, même si ça a dû le rassurer de jouer avec Aurélien Tchouaméni et même Benoît Badiachile derrière lui. En tout cas, j'ai trouvé l'équipe de France très cohérente. J'ai trouvé une équipe de France qui avec un point d'appui comme Giroud a réussi à... Alors bien sûr, il a été très critiqué et le coach en a parlé aussi, mais Benzema, moi, j'ai aussi milité pour son retour en équipe de France parce que je trouve que quand tu as des joueurs d'un tel talent et en plus avec une palette tellement différente, c'était vraiment dommage de s'en priver de Karim Benzema. Mais aujourd'hui, je trouverais vraiment dommage aussi, voire complètement incompréhensible de et pour moi ce discours de ah oui mais il était titulaire, pour moi c'est inaudible. Giroud, il a peut-être fait une fois une réflexion ou deux sur son temps de jeu, mais aujourd'hui il est plus là-dedans, il joue avec son club, donc il faudrait le sélectionner. Et il y a une dernière chose que j'ai entendu aussi que je trouve surprenante, c'est le fait que apparemment on pourrait, si la possibilité était d'avoir 26 joueurs sélectionnés, on pourrait ne pas utiliser toutes les possibilités en termes d'effectifs et de nombre de joueurs sélectionnés.
Là, je pense qu'il a voulu faire une blague, non?
On vérifiera ça à un moment donné. C'est vrai que.
Ah ouais, tu t'imagines, mec, tu as possibilité d'en avoir 26. Moi, comme quoi on est différent. Moi-même, 28, si tu veux. Non, c'est une blague. Je crois pas à cette connerie.
On en reparlera à ton voulu et si jamais c'est le cas, on n'hésitera pas à te faire venir dans l'after.
Ah, ben, avec plaisir.
Aze est toujours là. Aze, merci beaucoup d'être resté. Tu es là depuis tout à l'heure au 32-16. Aze, tu es toujours là?
Toujours.
Bon, merci d'être là. Aze, tu as entendu coach, Kevin, est-ce que tu partages leur point de vue?
Alors, Kevin, pas trop. Moi, je pense que la défense à 3, c'est une très bonne chose. Plutôt qu'à 4. De toute façon, en Ligue des Nations, il est repassé à 4. On a vu ce que ça a donné. C'était pas terrible. Tout le monde était un peu perdu. Défense à 3, c'est bien. Après, j'en attends un peu plus. Bon, notamment
à 4, t'es champion du monde quand même, accessoirement.
C'est vrai. C'est vrai. Mais j'en attends quand même un peu plus.
T'as une finale de l'Euro aussi à 4, mais bon.
Un peu plus de centre, notamment. Parce que je pense qu'on n'a pas encore assez exploité cette filière-là. On a des très bons joueurs, ballon au pied, mais je pense que ça manque encore un petit peu de rythme et de vitesse. Du jeu à une touche de balle, un peu plus de profondeur encore, ouvrir les espaces. Et puis je pense qu'après, on peut quand même aller loin, même si pour la Coupe du Monde, il y aura quand même des belles équipes en face et qu'il faudra être suffisamment solide. Mais là, avec les deux petits Tchouaméni Fofana qui nous ont rejoints au milieu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Griezmann, rôle défensif assez bien. Il a fait des très bons replis défensifs, il oriente assez bien le jeu. Lui, pareil, je trouve qu'il devrait aller peut-être un petit peu plus vite vers l'avant. Comme ça, jouer avec les espaces et la profondeur.
Après,
avec
Griezmann, il va falloir qu'il fasse attention, hein, parce que si Ousmane Dembélé garde le niveau qu'il a avec le Barça, il y a aussi Nkunku. Je pense que ça peut être difficile, même s'il a un statut qui semble indéboulonnable pour Didier Deschamps. Mais quand même, hein, Ousmane Dembélé, s'il enchaîne les matchs et qu'il retrouve la forme qu'il avait il y a encore quelques jours, ça va être compliqué.
Roland, rapidement.
Rapidement, je suis obligé et chaque fois je le ferai, c'est de rappeler que premièrement, nous avons 5 changements. Si par exemple il y a un Griezmann, eh bien la 60e minute qui est moyen, eh bien comme tu l'as dit, on a la chance d'avoir une génération où à chaque poste, il y a 2 ou 3 joueurs intéressants. Et ensuite, pourquoi toujours j'entends, c'est mieux de 3 arrières centraux plutôt que 2. Mais on peut pas, avec des joueurs de très haut niveau comme nous avons la chance d'avoir, leur expliquer qu'on a un plan A, on a un plan B, on peut démarrer avec 3 arrières centraux et terminer avec 2 arrières centraux. C'est pas compliqué, ça, merde.
Le dernier match de l'équipe de France avant ce mondial, le tout dernier, c'est dimanche, le déplacement à Copenhague face au Danemark. Ce sera 20h45. Ce sera évidemment en direct et en intégralité sur RMC. Aze, merci beaucoup. Passez une bonne soirée.
Merci.
Merci à vous.
Tu reviens quand tu veux dans la
salut.
À très vite. Salut Azeu, bye bye. Beaucoup de messages sur le direct studio, notamment je vous ai demandé d'où vous nous écoutez. Beaucoup de réponses, merci hein, beaucoup. Anton, salut les gars, je vous écoute depuis le Québec. Gaël qui écrit, moi à Londres. JP, moi je suis en Guyane, je m'appelle JPL et je vous écoute tous les jours. Hein. Beaucoup de messages ce soir, merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Il est 22h55, coach Courbis, Kevin Diaz sont là dans quelques minutes. L'OGC Nice au programme, Favre maintenu, est-ce une bonne nouvelle pour le gym supporter niçois? On vous attend au 32-16. Et puis l'autre événement de la soirée, il n'y a pas que le foot, il y a la dernière danse, The Last Dance de Roger Federer, le dernier match de sa carrière. C'est un double qu'il va disputer aux côtés de Rafael Nadal. C'est la Lever Cup, c'est à Londres et c'est imminent. Eric Salio est sur place. Salut Eric.
Salut Thibault, salut à tous.
Salut.
On en est où? Bah c'est imminent, tu as raison de le dire, puisque le simple qui ouvrait la session nuit vient de s'achever avec la victoire d'Alex de Minaur face à Andy Murray. Donc si je suis un peu journaliste sportif, je veux dire que l'Europe ne mène plus que 2-1, mais effectivement on attend dans quelques secondes l'entrée sur le court de Roger Federer pour sa dernière apparition donc sur un court dans une compétition officielle. Ce sera un double aux côtés de son ami Rafael Nadal. On a appris au travers de plusieurs interviews, de plusieurs insights, que en fait il avait prévenu Nadal bien avant l'annonce officielle sur son Instagram. Donc il avait dit, je veux finir avec toi en double. Donc
c'est magnifique ça quand même. Hein.
Ouais, et ça prouve quand même il y a des liens très forts entre Nadal et Federer. Et c'est vrai qu'ils ont entretenu le suspense. Et on a eu l'officialisation de la compo d'équipe seulement hier soir au moment de la conférence de presse. Mais ça va être un grand moment.
Il y a eu un petit brouhaha quand ils ont officialisé ça ou pas dans la salle de presse.
Non, parce qu'en fait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, sur le compte de la Lever Cup, et ensuite ils sont venus en conférence de presse. Donc, okay. Après, évidemment, on leur a demandé de commenter le choix du capitaine. Enfin, le choix du capitaine Björn Borg, c'est un emploi fictif, hein, faut pas se cacher. C'est Federer qui dirige.
De l'autre côté, c'est McEnroe, j'ai vu, non?
McEnroe est dans l'autre équipe, ouais. L'équipe du reste du monde, ouais. Si je puis dire. Non, il y a c'est prestigieux. C'est prestigieux, la Lever Cup. Alors, effectivement, c'est une exhibition, on va pas se le cacher. La preuve, c'est que les simples se terminent sur un troisième set au super tie-break. Mais ce match, effectivement, est suivi par le monde entier. Pour exemple, la télé suisse n'avait pas acheté les droits pour cette épreuve. Évidemment, en dernière minute, ils ont obtenu, ils ont sorti les francs suisses pour que la Suisse puisse assister au dernier match de Roger Federer. Donc, on attend ça. En face, il y aura donc l'équipe américaine qui a été composée par Jack Sock et Frances Tiafoe, qui passent pour les vilains, si je puis dire, parce qu'ils ont juste une envie, c'est de botter les fesses des vieux, entre guillemets, des bleus, des vieux bleus, puisque c'est cette épreuve, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une copie conforme de la Ryder Cup de golf, hein, avec donc Team Europe contre Team États-Unis. Et c'est vrai que c'est très bien ficelé, c'est très bien filmé, puisque on a, nous, spectateurs, hein, des insides, à savoir une caméra qui est toujours braquée sur les vestiaires. Donc on a vu Federer et Nadal se préparer, manger la dernière pasta, Federer qui met le dernier grip sur sa raquette. Donc voilà, c'est super bien foutu, faut le reconnaître. Maintenant, profitons-en. C'est la dernière fois qu'on verra Federer sur un court. Et là, oui. C'est imminent.
Combien de temps on t'estime à peu près là?
Ça va pas tarder, les gars. Ouais, Tim Edman est en train de faire monter la sauce pour le site de la Lever Cup. Donc c'est vraiment imminent, puisque le match d'avance s'est achevé il y a une dizaine de minutes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait vraiment une atmosphère très particulière en fin d'après-midi, quand la day session s'est achevée, puisque ceux qui avaient des billets donc pour cette session de nuit, ils ont pu profiter un instant de Federer, puisque Federer s'est entraîné sur un court qui est fabriqué de toutes pièces, hein, et il y avait une sorte de procession qui était organisée pour que les fans puissent voir Federer pendant quelques secondes, hein, je dis bien quelques secondes, parce qu'il y avait un modérateur qui disait, allez, dépêchez-vous, faut que tout le monde en profite. Et ça a duré l'une demi-heure, le temps de l'échauffement de Federer à son âge, hein. Il a besoin que d'une demi-heure pour se chauffer les jambes, et puis ensuite Federer s'est préparé dans le vestiaire, mais il a quand même assisté à la fin du match d'Andy Murray. Il voulait pousser son coéquipier, mais ça n'a pas suffi.
Il est 23h, vous êtes sur RMC, c'est l'after, hein, l'after foot avec Kevin Diaz et Roland Courbis. Ce sera aussi un peu after tennis ce soir parce que c'est un événement, une légende du tennis, mais c'est en fait une légende du sport qui tire sa référence et sa révérence. RMC sur place, bien sûr, c'est la Lever Cup à Londres avec Eric Salio. On va vivre ensemble l'entrée pour la dernière fois en compétition officielle, l'entrée sur le court de Roger Federer. C'est imminent. Je vois vos messages sur le direct studio. Ça commence un peu à parler tennis sur Twitter et également le hashtag RMC Live. Juste après, petite pause et l'OGC Nice au programme. Vous pouvez d'ores et déjà appeler. Adrien est là au standard au 32-16. Favre maintenu. Est-ce une bonne nouvelle pour le gym? N'hésitez pas, on en débat dans quelques minutes avec Kevin et Roland. Eric, raconte-nous ce que tu vois, cette Lever Cup, cette salle. Raconte-nous.
Écoute, on est dans le vestiaire de Team Europe, donc vraiment là ils sont en train de c'est imminent puisque l'équipe ils sont tous en bleu. Federer a mis son bandana, il est en train de se faire la bise, ils sont en train de se faire la bise avec ses coéquipiers, donc ils vont rentrer dans l'arène. C'est une fantastique arène, hein. On est dans l'O2 Arena, c'est peut-être la plus belle salle d'Europe, donc l'écran est magnifique et c'est pas un hasard si Federer a privilégié ce plan B, puisque à partir du moment où il savait que son genou lui permettait plus de pouvoir jouer en compétition officielle en simple, ce plan B est magnifique puisqu'il est entouré de stars, et je parle pas seulement de ses coéquipiers. Il faut savoir qu'en face, je l'ai dit, il y a John McEnroe, il y a aussi Rod Laver, et on a fait le calcul tout à l'heure, il y a 95 titres du Grand Chelem qui seront autour du cours dans quelques secondes. 95 titres du Grand Chelem, peut vous dire qu'il y a des invités de marque. Stefan Edberg est là, Anna Wintour, la papesse de la mode, la patronne de Vogue, est une amie intime de Roger Federer, a fait le déplacement des États-Unis. Hugh Grant est là, donc voilà, c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Et Federer donc est dans les couloirs de l'O2 Arena et c'est imminent. On va vous mettre l'ambiance dans quelques secondes parce que voilà, on veut pas rater ce moment. Federer Nadal, l'association mythique, l'association magique, et qui vont être opposés à Francis Tiafoe et Jack Sock. Voilà, ils sont vraiment dans le couloir. C'est la petite mort qui se prépare, si je puis dire, pour Roger Federer. Et là, il y a une atmosphère vraiment unique. Voilà, dans 5 secondes, ils vont rentrer sur le court. Le speaker va, je pense, présenter d'abord l'équipe des Rouges, à savoir l'équipe du reste du monde. Mais là, ça devient, ouais, ça devient, voilà. On va écouter le speaker, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
C'est comme si on y était.
On sautait, on écoute.
On est à l'O2 Arena, on écoute le speaker à l'anglaise. D'abord les Rouges, ensuite les Bleus, Fédal, qui vont entrer sur le court.
C'est un match de boxe.
Exactement. Ce qui est marrant, c'est que t'as les Rouges et les Bleus, quoi. Ça fait rire, on dirait Koh-Lanta, quoi.
Ouais. Allez, on écoute le Denis Brogniart anglais.
Et voilà. Là, c'est dans quelques secondes, donc l'entrée sur le court de Roger Federer.
Team Europe, please welcome Roger Federer and Rafael Nadal with Captain Bjorn Borg.
Voilà. Et ils sont tendus. Je peux vous dire que Nadal est tendu. Il a été tendu tout au long de la rencontre de Murray parce que ce sont d'immenses champions qui n'aiment pas perdre. Et Nadal, je vous le cache pas, je pense que c'est mon âme la vie. Hein. S'il n'y avait pas eu cette cérémonie d'adieu de Federer, je pense qu'il aurait déclaré forfait pour la Lever Cup parce que on sait que sa femme est enceinte, il y a eu quelques complications et d'ailleurs il l'a dit hier en conférence de presse, hein, je m'excuse auprès de mes coéquipiers d'avoir eu un jour de retard, donc il a vraiment différé son arrivée en Angleterre jusqu'à la dernière seconde et donc voilà, il s'est excusé maintenant. Okay. Ils veulent gagner ce point, il y a 2-1 pour l'Europe, ça c'est un détail, mais voilà, ils vont débuter leur échauffement et comme par hasard l'arbitre le plus célèbre du monde, c'est Mohamed El Ananoui, vous le connaissez tous, c'est lui qui a été choisi pour arbitrer ce double de le dernier match de Roger Federer en compétition officielle.
Merci Eric, on se retrouve dans quelques instants. Denis Brogniart anglais commence à parler un peu fort. On va suivre le dernier match de Federer, bien
par
sûr.
Par contre, pour Eric, Koh-Lanta, c'est les rouges et les jaunes. Il y a rarement des bleus.
Une année, il y avait eu les quatre couleurs, tu te rappelles? Les quatre régions, il y avait les verts, jaune, rouge, violet. Ouais.
Effectivement.
Ah, je suis un spécialiste. Ah, je vois ça. Beaucoup de messages. Vous parlez du tennis. Tiens, le Emric, notre auditeur qui était à Ibiza, nous a écrit. Je patiente avant de sortir. J'écouterai la fin de l'émission en podcast demain, bien sûr. Bah, bonne soirée à toi, Emric. Des messages.
Et quelques adresses, Yves.
De Moselle, Woolgulga en Australie. C'est Quentin. Voilà. Et puis Mehdi qui écrit bravo pour votre carrière, Monsieur Federer. 23h05. Vous êtes sur RMC Retour au foot dans un instant. Favre maintenu. Est-ce une bonne nouvelle pour le gym? On vous attend. instant au 32-16. On a un débat avec Kevin Diaz et Roland Courbis. Ça tout de suite.